Cachez-moi ce singe que je ne saurais voir. Drôle de titre pour une conférence. C'est le conférencier lui-même qui l'a choisi. Yves Coppens est venu à l'invitation de la Fondation Prince Pierre disserter à Monaco sur notre ancêtre, un aïeul que parfois certains n'acceptent pas, ou difficilement, d'où ce titre espiègle. Yves Coppens, aujourd'hui au Haut Conseil de la Recherche et de la Technologie, reste le meilleur spécialiste en France de l'évolution humaine. Noël Fontoni lui a demandé pourquoi l'homme cherche toujours à renier cette part d'animalité qu'il a en lui.
Je voulais attirer l'attention sur le fait que les singes sont tellement proches de nous que de deux choses l'une, ou on les adore ou on les déteste, quoi. Et par exemple, dans mon couple, c'est tout à fait clair, ma femme ne peut pas les voir et moi j'adore les rencontrer et je m'amuse beaucoup à les regarder agir parce qu'il y a un petit côté anthropomorphe et puis de ma part un petit côté anthropocentrique. Donc j'ai l'impression que les gestes qu'ils font sont aussi les gestes que je fais, etc. Ma propre grand-mère maternelle me disait « Si toi, mon petit-fils, tu descends du singe, moi sûrement pas », ça voulait dire ça en quelque sorte. C'est-à-dire, vous savez, là, on raconte que la femme d'un évêque anglican, un évêque anglais de la cathédrale de Worcester, quelquefois on dit Westminster, mais c'est pas vrai, c'est Worcester. Lorsque les premiers livres de Darwin sont sortis à la fin du 19e siècle, disait, moi je trouve ça très joli, parce que ça dit à la fois la même chose que dans mon titre, et en même temps, ça montre aussi le caractère anglais qui reçoit l'information et fait avec, quoi. Et alors cette dame disait, oh là là, il paraît que nous descendons du singe pourvu que ça ne se sache pas. Autrement dit, ça fichait complètement que ça se soit passé ainsi, mais surtout que le public ne le sache pas, parce que les fidèles ne le sachent pas, parce que ça créerait bien des soucis, bien des ennuis.
Quelle est la part du singe qui est en nous ?
Oui, ben elle est sûrement importante. Enfin, d'abord, nos ancêtres sont communs. Jusqu'à 10 millions d'années, tous les ancêtres qui nous ont précédés, par définition, qui ont précédé les 10 millions d'années, sont partagés avec les singes. Donc ce sont vraiment des grands-pères et arrière-grands-pères et arrière-arrière-grands-pères communs. C'est amusant quand même de penser qu'on a des aïeux partagés avec les chimpanzés. Mais bien entendu, ceci ne remonte qu'à 10 millions d'années. Et à partir de 10 millions d'années, c'est un grand embranchement avec des voies tout à fait différenciées. C'est-à-dire que nous vivons la vie des préhumains d'abord et des humains ensuite tout à fait indépendante, tandis que les singes eux-mêmes vivent une vie des pré-chimpanzés, pré-bonobos tout à fait indépendante avant d'arriver au grand singe d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qui amène le suivi de directions différentes finalement ? Qu'est-ce qui amène la scission ? Parce que bon, je pense que l'évolution se fait aussi en même temps que le milieu naturel.
Ben, j'avais pensé à une certaine époque que ça pouvait être une coupure écologique au sein de la population des ancêtres communs. Et puis, en tout cas, la coupure que j'avais envisagée et qui était la grande faille qu'on appelle la Rift Valley, laissant la forêt d'un côté et dégageant de la savane de l'autre, était idéale pour une compréhension simple des choses, mais c'est sûrement plus compliqué que ça, puisque on a trouvé du côté que je n'aurais pas aimé, des ancêtres aussi des humains. Donc cette hypothèse-là n'est pas bonne. Ceci étant dit, en général, lorsque des spéciations, c'est-à-dire l'émergence, l'apparition d'espèces se fait, c'est dû en effet à l'apparition d'environnements différents. L'idéal dans l'histoire, enfin l'exemple idéal, c'est l'environnement insulaire, c'est l'île. L'île isole, comme son nom l'indique, par excellence, et les îles sont extrêmement créatrices d'espèces particulières, d'espèces nouvelles, parce que le flux des gènes, le flux génique est arrêté. par la coupure océanique. Et ceci entraîne donc l'apparition de nouvelles espèces qui ont bénéficié d'alliances bien différentes des alliances qui se sont faites sur le continent. Alors parfois la forêt joue le rôle d'île. La forêt est aussi une sorte d'île. Et souvent dans les îles, il y a une réduction de taille. Et réduction de taille tout simplement parce que dans une île, il y a moins d'espèces, il y a des écosystèmes plus faibles, plus pauvres. Il y a aussi des environnements qui eux-mêmes sont moins importants, moins abondants, moins riches. Et puis il y a aussi moins de prédateurs. Et en général, ceci entraîne un nanisme insulaire. Les bêtes diminuent de taille, c'est très curieux. Et on vient de trouver, il y a quelques années, dans une petite île de l'Indonésie qui s'appelle Flores, une forme humaine qui n'a pas plus de 20 000 ans, peut-être moins même, et qui a un mètre de haut, et est une sorte d'Homo erectus, de pithécanthrope, transformé, enfin, qui a réduit sa taille dans une île comme n'importe quel hippopotame, éléphant, stégodonte, cervidé, bovidé, etc. Ce qui est très intéressant. Oui.
Alors, si la spéciation est le fruit d'environnements différents, est-ce que la dégradation de l'environnement peut amener la disparition de l'espèce ?
Bien sûr, la dégradation de l'environnement et la disparition de certains environnements peut entraîner tout à fait la disparition d'espèces. Lorsqu'il y a eu le réchauffement climatique d'il y a 10 000 ans, à la fin de la dernière glaciation, la forêt est montée vers le nord, et du coup, en remontant vers le nord, elle a repoussé vers le nord la steppe à mammouth, et comme au-delà de la steppe à mammouth, il y avait la toundra au bord de l'océan glacial arctique, la steppe, le milieu, l'environnement que l'on appelle steppe à mammouth a disparu, et avec cet environnement, le mammouth qui était dedans et le rhinocéros qui était dedans, c'est pas rien. Alors des bêtes plus importantes, je veux dire en nombre et moins importantes en poids, avec des temps de gestation plus courts, ont survécu. Par exemple, les rennes se sont adaptés à d'autres milieux, les bisons également, les loups aussi, les ours aussi, mais le mammouth et le rhinocéros se sont quand même bien éteints à ce moment-là. Moi, je vais régulièrement depuis 1999 en Sibérie les ramasser, ces bêtes. Il y en a des quantités, mais des quantités, c'est incroyable, l'extinction en masse que ça a entraîné. Oui.
Est-ce qu'une espèce peut faire disparaître son propre environnement, une espèce animale ?
Alors, il faudrait que l'espèce en question consomme en quelque sorte son environnement. Oui, enfin ça c'est quand même un cas extrême, c'est-à-dire que dans ce cas-là, elle s'arrange naturellement, bien sûr. Hein, c'est pas de tête comme ça en se disant je vais faire en sorte que... Mais elle s'arrange pour s'adapter à un autre environnement, ça c'est possible aussi. Une bête peut être installée dans un environnement tout à fait adapté à cet environnement, et puis elle va élargir son régime alimentaire, par exemple, ou bien le déplacer, le transformer, en fonction des événements, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un environnement disparaît, ce n'est pas parce qu'un environnement change, que toutes les bêtes qui se trouvent dans cet environnement vont périr. Il y a des bêtes qui ont un potentiel évolutif suffisamment puissant pour savoir s'adapter à l'environnement voisin et du même coup faire le passage. L'homme, par exemple, il y a 3 millions d'années, il y a eu un grand coup de sécheresse, un grand changement climatique. Les bêtes qui précédaient, comme Lucie, les préhumains qui précédaient, qui étaient végétariens, se sont trouvés devant une situation telle qu'il n'y avait plus assez de végétaux pour les nourrir. Et leur adaptation a consisté, l'adaptation de l'homme a consisté à élargir son menu, son régime alimentaire. L'homme ne s'est pas mis à manger de la viande parce que il avait tout d'un coup envie de manger un beefsteak, hein. Mais il s'est mis à manger de la viande parce qu'il n'y avait plus assez de végétaux, et il est devenu omnivore de manière opportuniste, en quelque sorte.
L'homme dans l'histoire de la Terre, c'est une goutte d'eau. Est-ce qu'il peut être amené à disparaître? Est-ce que vous pouvez suivre une évolution qui vous permettrait de tirer ses conclusions? Et son environnement se dégradant, est-ce qu'il va devoir lui-même s'adapter à quelque chose de nouveau?
L'homme, d'abord sur le principe, peut très bien disparaître. Ça peut très bien disparaître. L'histoire de la vie, c'est 4 milliards d'années d'histoire. Donc durant les 4 milliards d'années d'histoire, il y a eu des émergences, des apparitions, des créations d'espèces et puis des extinctions tout le long de la route, hein, bien sûr. Mais une des adaptations de l'homme, justement, il y a 3 millions d'années, une des adaptations de l'homme, ça a été le développement de son cerveau. Et le développement de son cerveau lui a permis d'acquérir ce que l'on appelle la conscience. C'est-à-dire qu'au lieu de savoir bien des choses, il a su qu'il savait, il a su qu'il savait. Donc une sorte de retour de la pensée sur elle-même, ça s'appelle la réflexion, comme dans le miroir qui est devant nos yeux, là. Et à partir de ce moment-là, il a fabriqué des choses de manière délibérée. Et la fabrication de ces choses a entraîné l'apparition d'un milieu nouveau qu'on appelle le milieu culturel. Et ce milieu culturel s'est développé au point d'envelopper l'homme, au point de nous envelopper. Le petit bouc de machin là que vous me tendez vers la bouche, c'est un bout de culture, hein. Et cette culture, finalement, fait que les conditions ne sont plus tout à fait les mêmes que pour les animaux ou les plantes. C'est-à-dire que nous réagissons beaucoup plus vite aux agressions de l'environnement grâce à notre culture. Par exemple, je tousse, je suis mal à la gorge, je sais pas quoi, mais je me sens pas bien, je vais voir le médecin me fait une ordonnance. Je suis suffisamment malin pour aller chez le pharmacien chercher ce qui est écrit sur l'ordonnance et essayer de mettre un écran de culture entre l'agression du milieu et moi-même. Donc on ne peut plus appliquer à l'homme exactement les mêmes règles que celles qui ont été celles qui ont prévalu durant les 4 milliards d'années d'histoire de la vie animale ou végétale.
Donc vous n'êtes pas spécialement inquiet de ce qui peut amener l'homme à dégrader petit à petit, par son industrie, par ceci, par cela, son milieu naturel?
Non, je ne suis pas, je vais vous dire, je ne suis pas inquiet du tout pour différentes raisons. D'abord, les transformations que l'homme a fabriquées sont sans doute en train de créer des pollutions. Lesquelles pollutions sont en train de transformer l'atmosphère et sont en train peut-être d'accélérer des changements climatiques. En ce sens, il peut y avoir en effet des changements climatiques, et pour moi, je pense que ces changements-là sont enclenchés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, quand on dit « sauverons la planète », la planète s'en fiche complètement, pardonnez-moi, hein. Mais la planète n'a pas besoin d'être sauvée, la planète a subi des vicissitudes climatiques de ce genre, n'a cessé de subir des vicissitudes de ce genre depuis qu'elle est fabriquée il y a 4 milliards 600 millions d'années. Donc la planète ne craint rien. Qu'est-ce qui va se passer si ça continue? Et je pense que ça va continuer. Il va y avoir des changements, par exemple, dans le niveau de l'eau. Là aussi, on dit, c'est épouvantable, la glace de mer de l'océan glacial arctique ne se fait plus, et c'était effrayant. Du coup, ça permet un passage par le nord du Canada entre l'Europe et l'Asie. C'est vrai, c'est extrêmement intéressant, mais par définition, La glace de mer, c'est la mer qui glace. Donc la mer, elle est là, et puis en hiver, elle glace, donc elle fait de la banquise, et puis en été, elle fond, donc elle refait de la mer. Ça change rien, quoi. Alors ça change pour les ours. Enfin, c'est embêtant pour les ours. Mais après tout, si les ours disparaissent, ça sera bien triste. Mais qui se préoccupe de la disparition de l'ours des cavernes? Moi, l'ours des cavernes, il m'est cher, hein. Personne ne pleure sur la disparition de l'ours des cavernes. Moi, je l'ai vu mourir, l'ours des cavernes. Bon, bah, celui-là, il est bel et bien parti. Non, non, je plaisante et j'agresse de manière désagréable. Ceci étant dit, il n'est pas impossible que les 3000 mètres de la de l'Inland 6 qui se trouve sur le Groenland, eux fondent, oui. Ça, ce n'est pas impossible. Et à ce moment-là, bien sûr que ça fera une montée des eaux, bien sûr que ça créera des problèmes dans bien des endroits du monde, et je pense en particulier au vôtre, hein, ici. Il faudrait expliquer au prince que si le Groenland fond, ça va quand même changer la situation de Monaco. Il faut prévoir des arrières. Mais là aussi, le dessin des côtes n'a cessé de changer. Il y a très peu de milliers d'années, la mer était à un certain nombre de kilomètres de la côte, puisque elle était plus basse de 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres parfois. Donc il y a d'ailleurs toute une archéologie de côtière, toute une archéologie littorale qui n'est pas faite, parce que c'est pas très simple d'aller fouiller dans ces endroits, et on n'est pas encore bien équipé pour faire de l'archéologie sous-marine.
Pourquoi tentons toujours à cacher cette part d'animalité qui est en nous, quoi?
Je pense, comme ma grand-mère, que c'est parce qu'on a peur d'y perdre notre dignité. Et c'est tout à fait dommage. Et ça correspond bien au mot d'éthique de votre radio. C'est tout à fait dommage parce que c'est une erreur. Enfin, je ne veux pas dire ça méchamment pour ma grand-mère. Mais ma grand-mère, à juste raison, quand elle disait « si tu descends, tu singes, toi, moi, sûrement pas », voulait dire « moi, j'appartiens à l'humanité, toi aussi, et l'humanité est caractérisée par... Sa dignité, sa responsabilité, sa liberté. Et l'animal, c'est autre chose. C'est vrai, ceci étant dit, nos racines sont quand même bien profondément enfoncées dans le monde animal, dans le monde vivant, et il se trouve que les singes sont nos petits cousins les plus proches. Mais on a un peu, certains ont un petit peu de peine à avoir en eux le petit cousin incontestable qu'il est. Alors il faut dire qu'il y a quand même 10 millions d'années de battement, ce qui laisse quand même un petit souffle et la possibilité d'admettre ces gentils animaux dans la famille. Vous savez, l'autre jour, je me suis trouvé face à un gorille. Dans un zoo, on s'est regardé longtemps dans les yeux, et j'allais me gratter la tête lorsque c'est lui qui s'est gratté la tête. Il a fait comme ça. Je me suis dit, c'est marrant parce que j'allais faire la même chose.
Merci. Merci.